Vous écoutez Histoire de mobilité, une série de podcasts produite par la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Histoire de mobilité raconte les expériences internationales de chercheurs et chercheuses que la Fondation soutient.
Nous vous invitons aujourd'hui à écouter le récit d'Alexandra Biard, lauréate du programme Atlas. Ce programme permet de soutenir des jeunes chercheurs en leur offrant des aides à la mobilité pour effectuer des terrains de recherche en France ou à l'étranger. Alexandra Biard est archéologue des Amériques. Ses recherches de thèse portaient sur le Mexique et grâce au soutien de la FMSH et du CMK, elle oriente désormais ses recherches vers le Belize. Elle s'intéresse plus particulièrement à la navigation préhispanique. Afin de faire face à la rareté des données archéologiques dans cette zone, elle a opté pour une approche ethnologique et ainsi mieux comprendre le paysage culturel maritime maya.
Donc je m'appelle Alexandra Biard, je suis chercheure associée au laboratoire ARCAM, donc Archéologie des Amériques, qui dépend de l'Université de Paris 1. Et j'ai soutenu ma thèse en 2017 sur la navigation et les installations lacustres dans le bassin de Mexico, principalement. Et suite à ces travaux, j'ai essayé d'étendre mes recherches à une zone géographique plus grande, qui inclut donc toute la région Maya, dans l'étude de la navigation préhispanique ou de la navigation de manière générale dans les Amériques. On fait face à une absence de données archéologiques en contexte, c'est-à-dire dans mon cas que nous n'avons aucune épave à ce jour qui a été découverte entre le Mexique et l'Amérique centrale. Donc l'archéologie fait face à un trou béant de données qu'il faut donc compenser avec une autre approche, et l'approche que j'ai choisie est celle de l'ethnologie. Il faut savoir que l'Amérique centrale et le Mexique comptent encore aujourd'hui avec beaucoup de communautés indigènes qui ont un mode de vie assez similaire à ce que l'on pouvait trouver à l'époque préhispanique. Et en particulier, certaines communautés pratiquent toujours la navigation. Donc ça nous permet d'avoir une approche directe avec une population qui a hérité d'un savoir-faire ancestral, bien qu'il ait évolué, bien évidemment. Les analogies sont à faire avec beaucoup de prudence. Mais l'avantage de l'ethnologie est donc de pouvoir parler directement aux acteurs de cette culture et à la pratique qu'ils ont de la navigation. C'est la rencontre avec une professeure de l'université de UCL à Londres qui travaille depuis plus de 45 ans au Belize, donc qui m'a dirigée vers ce pays. Et la région dans laquelle j'ai travaillé, donc qui est le district de Toledo, qui est le district le plus septentrional du Belize à la frontière avec le Guatemala, est une région qui a été pris en considération assez tard, à partir des années 1880, ce qui a permis en fait une sorte de non-contamination du mode de vie des populations mayas, qui se situent généralement loin des côtes, et donc ça a préservé, si vous voulez, une sorte de... Ça a permis à la culture de perdurer sans grande modification, et c'est ce qui donc a été très intéressant par rapport aux comparaisons avec les données historiques et iconographiques, parce qu'on a des parallèles assez flagrants qui sont faciles à faire. Et d'autre part, le Belize donc, est une ancienne colonie britannique, donc toutes les populations, y compris indigènes, parlent couramment l'anglais, et ce qui a permis aussi d'avoir un accès beaucoup plus simple aux données, parce qu'au niveau de la communication, il n'y avait aucune barrière de langue qui peut être un problème dans certaines zones un peu reculées. Le programme Atlas donc, m'a permis de faire des recherches de fond, donc déjà pour savoir s'il était possible de construire l'embarcation, si c'était faisable, quelles étaient les procédures à suivre, donc que ce soit institutionnel ou communautaire, parce que dans les villages mayas au Belize, vous avez ce que l'on appelle l'alcalde, qui est le chef coutumier, et le chairman, donc le maire qui dépend des institutions politiques et gouvernementales actuelles. Et il faut que les deux personnes soient en accord pour que l'on puisse réaliser un projet. Donc la première étape était de voir avec eux si le projet les intéressait, s'ils étaient d'accord et quelles étaient les conditions. Et après, la deuxième étape était de trouver une personne reconnue par la communauté comme étant capable de réaliser l'embarcation. Et enfin, de rencontrer cette personne pour savoir si elle était d'accord de participer et sous quelles conditions. Donc le programme Atlas était vraiment le moyen d'établir les bases solides du projet pour la construction future de l'embarcation. Et donc, on va la construire. Le programme Atlas m'a permis de postuler donc à une bourse du British Museum, qui est l'Endangered Knowledge Material Programme, qui permettrait donc de financer la construction de ces embarcations et de réaliser encore plus d'entretiens ethnographiques sur les traditions de navigation dans des villages mayas alentours dans lesquels je n'ai pas eu le temps de me rendre pour des questions de logistique et de timing. Ce qui fait que la personne est désignée comme étant en mesure de réaliser l'embarcation, c'est tout simplement c'est la communauté qui décide en fait. C'est-à-dire que j'ai interviewé plus d'une douzaine de personnes, exclusivement des hommes d'un certain âge et qui sont détenteurs d'un savoir et d'une mémoire communautaire et collective importante. Et ce sont eux qui, à l'unanimité, m'ont dirigée vers cette personne. C'est-à-dire que je n'ai pas eu mon mot à dire ou à émettre de choix, c'est-à-dire que c'est cette personne qui m'a été désignée par la communauté, donc c'est à moi de respecter ce choix. Et à travers l'entretien de cette personne, on se rend compte qu'elle a hérité tout son savoir-faire de son père, qu'il avait hérité de son père, etc. Donc il y a une longue lignée de traditions dans la fabrication des canots, premièrement. Deuxièmement, c'est un homme qui a 62 ans et qui est le seul physiquement capable aujourd'hui de réaliser une pirogue, parce que parmi les autres personnes plus âgées, on avait des personnes entre 80 et 95 ans. Construire une pirogue, c'est un processus long. Il faut demander l'autorisation au département forestier d'abattre l'arbre, il faut qu'il vienne voir l'arbre, il faut qu'il vous donne l'autorisation, il faut payer pour son abattage, ensuite il faut la construire. Donc ça peut prendre entre 3 semaines et 1 mois en fonction du savoir-faire et des outils disponibles. Cette rencontre avec le constructeur de la pirogue, donc, qui s'appelle Monsieur H, j'ai été mandatée par les chefs de la communauté pour lui présenter mon projet et il était déjà au courant qu'il avait été choisi. Mais il y avait une sorte de présentation et d'introduction formelle, de savoir qu'est-ce que j'attendais de lui. Il a posé énormément de questions éthiques et je pense que c'était le plus important, de savoir qu'est-ce que j'allais enregistrer, comment j'allais l'enregistrer, qu'est-ce que j'allais en faire. Est-ce qu'il allait en retirer, lui, personnellement, quelque chose? Qu'est-ce que la communauté allait en retirer aussi? Une fois la présentation formelle réalisée, donc on est rentré dans des questions un petit peu plus intimes et personnelles, à savoir le sujet de la transmission par son père, par ses oncles, par ses frères, etc. J'ai posé la question: à partir de quand tu as participé à la construction d'une pirogue? Quelle est la première fois où tu es monté sur une pirogue? Quelle est la première fois où tu as navigué seul? Et du coup, ça fait remonter tout un tas de souvenirs assez personnels. Et à partir de là, il n'y a plus de barrière chercheur et sujet d'étude, en fait. C'est juste deux personnes qui échangent des souvenirs. Et c'est là, et la seule chose qu'il m'a dit, c'est: si tu reviens pour construire cette pirogue, en fait, tu le fais pas pour nous, tu le fais pas pour la communauté, tu le fais pour la rivière. Parce que la rivière est au centre de leur mode de vie et de leur mémoire culturelle de manière générale.
Depuis plus de 50 ans, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme soutient la recherche et la diffusion des connaissances en sciences humaines et sociales. Avec les voix de Amandine Sanson et Emmanuel Korne, sur une musique de Irina Jiménez, ce podcast est produit et réalisé par FMSH Audiovisuel. Yeah.